Par rapport à cette réorganisation, du coup, on voit bien que la maison s'est transformée à la fois en bureau, en salle de classe, et du coup, bah, ça reste toujours une maison, donc en lieu de vie quotidienne. Est-ce que pour vous, par exemple, Julie, là-dessus, comment est-ce que toi, tu t'es organisée entre du coup, ta vie professionnelle et ta vie de famille? Est-ce
Très
que
mal.
ça a beaucoup changé?
Ouais, moi je trouve que c'est une difficulté immense et j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est à la maison et j'ai plusieurs collègues qui n'ont pas cette chance. Et c'est vraiment, vraiment une source d'épuisement profond, physique et moral. Voilà, je tiens à le préciser. Et c'est vrai que ces micro-tâches que requiert la gestion à distance de l'enseignement, peaufiner un cours, envoyer un cours, répondre à un mail, ça crée une espèce de d'hétérogénéité des tâches, mais en même temps dans une seule et même dimension qui est celle du virtuel. Et ça décontenance et c'est un épuisant, ouais, c'est épuisant. Alors moi, j'ai mal géré les choses, j'ai eu du mal à me libérer de grands moments pour travailler. Et c'est ce dont j'ai besoin. Donc c'est compliqué, tout le temps interrompu par plein de choses de la vie, et voilà.
En fait, moi, j'ai aussi l'impression, du coup, par rapport à ce travail à distance, que ça, et la difficulté de ce travail à distance, que, en fait, ce dont on nous parlait avant, peut-être en faisant miroiter que c'était super le travail à distance, le numérique résolvait tous les problèmes, bien sûr que pour les familles, en particulier les familles plus pauvres, quoi, tout simplement, qui sont moins équipées ou qui ont moins de facilité avec l'écrit, voilà. Dans ma classe sont une grande partie des familles, en fait, eh bien, cet enseignement-là, il n'est pas facile du tout. Et que, du coup, quelque part, ça donne, il y a quelque chose presque d'encourageant dans le fait que, voilà, les cours en présentiel, eh bien, tout simplement, c'est ça qui est important, en fait, et c'est ça qui est, en tout cas, pour les enfants de primaire, c'est ce que je connais un peu, c'est évident que c'est le contact humain, les interactions qui sont les interactions aussi en groupe d'enfants, enfin entre les enfants, etc., qui sont le plus importantes. Et à mon avis, ça l'a démontré encore une fois. Et évidemment, bien sûr que les inégalités sociales, là, elles ont été mises encore plus. Enfin, elles ont été. Il y a une lumière très crue qui a été mise dessus, mais elles étaient bien sûr déjà là et ce phénomène était déjà vrai, quoi.
Déjà, le passage au numérique, rien que envoyer un mail, tout simplement, c'est difficile hein, pour beaucoup d'élèves. Je reviendrai sur ce que Rosa disait, justement, le côté un peu rassurant que le numérique, il va pas encore remplacer les cours en présentiel. Je pense qu'on s'est bien tous rendu compte de ça. C'est très difficile, les cours à distance, hein, en numérique. Et justement, déjà, par une question de base qui sont les inégalités sociales, la quantité d'outils et des dispositifs que les élèves ont à la maison. Comme Rosa disait tout à l'heure, il y a des familles, ils sont 4 enfants. Moi, j'ai plusieurs élèves qui ont 3 à 4 petits frères. Ils ont un ordinateur portable à la maison. Parfois, des parents qui sont en télétravail en même temps. Donc, c'est très difficile, justement, de gérer le côté numérique.
Même du coup au lycée, Julie, ces difficultés, on les retrouve.
Oui et non, parce que le LP2I a un public particulier. On a une majorité de nos élèves qui font partie des CSP favorisés. En outre, on travaille à partir de l'outil numérique. Ça, c'est une de nos lignes directrices. Donc, chaque élève est doté d'un ordinateur et sait l'utiliser. Et on a des cours spécifiques pour ça dès la seconde. Parce qu'effectivement, on ne naît pas. En sachant envoyer un mail et faire un copier-coller ou un clic droit, donc ça s'apprend, on l'apprend à nos élèves. Donc à partir du moment où le confinement a été promulgué, c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation où on avait en plus des outils très performants, donc on a gardé le contact avec tous nos élèves. Et parmi les élèves en grande difficulté, c'était pas tant le fait qu'ils soient effectivement ou pas dotés d'un outil, puisqu'ils en avaient un, ou alors on leur en a apporté, sous forme de, c'était un prêt du lycée,
ni le fait qu'ils sachent s'en servir, puisque ça, ils l'ont appris avec nous auparavant, c'était effectivement des conditions au domicile qui étaient compliquées. Quand j'ai une élève qui a 8 frères et sœurs dans un appartement avec une surface assez restreinte. Donc là, c'est les moments qu'on trouve pour travailler sur son PC, s'isoler, etc. Donc ça, c'est ça qui est compliqué à gérer. Voilà. D'autant plus compliqué dans ce type d'établissement que ces élèves-là étant à la marge, c'est compliqué d'avoir une pensée collective qui s'intéresse à eux et qui les prend en compte. Voilà.
Dans les injonctions, il y avait cette injonction dès le départ, enfin très vite, de notre ministre d'Éducation nationale, de ne laisser personne sur le bord du chemin. Ça faisait vraiment partie des injonctions, alors qu'on voyait que justement, cette modalité numérique... Elle ne pouvait pas faire autrement que de laisser de côté des gens. Donc, c'est toujours ces injonctions, en fait, finalement, dans cette situation, je trouve que c'est toujours ces injonctions qui sont peut-être pas contradictoires, mais en tous les cas, impossibles à résoudre, en fait. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Quand les injonctions sont pratiquement impossibles à remplir, voilà, et bien, c'est ça, c'est très douloureux pour les personnes qui sont soumises à ces injonctions. C'est ça qui est difficile. Et là, ça rejoint, c'est un autre sujet sans doute, mais la reprise qui est demandée bientôt, on voit bien que certainement, ça sera pas, on ne pourra pas remplir les conditions pour que ça se passe dans des bonnes conditions. Donc, ça nous soumet à, enfin, c'est très angoissant et ça nous soumet à quelque chose d'impossible à faire.
Du coup, Sylvia, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, justement, par rapport aux injonctions au numérique, on voit bien comment, au final, chaque établissement a fait un peu comme il peut. Comme Julie disait tout à l'heure, il y a plein d'établissements qui ont prêté du matériel. Moi, dans le mien, par exemple, aussi, l'établissement a prêté des tablettes pour que les élèves puissent travailler à distance. Mais justement, on sait très bien que ça ne concerne pas toutes les familles. Il y a des familles qui n'en demandent pas, tout simplement. C'est difficile à gérer à distance. Et il y a eu justement un partenariat avec la Poste pour envoyer des documents aux élèves en version papier. Cependant, ça n'a été mis en place que la semaine dernière. Donc voilà, on en revient, on manque un peu de préparation. C'était pourquoi pas une solution à envisager, pourquoi pas, mais qui arrive encore une fois un peu tard.
Oui, bon, ce qui ressort là de tout ce que vous nous racontez, de tous vos témoignages, c'est qu'au final, malgré tout, tous les beaux discours sur l'enseignement à distance, on en voit vraiment les limites en cette période et tous les problèmes que cela peut poser. Et donc, Rosa, tu le mentionnais tout à l'heure, c'est le troisième point sur lequel on voulait justement discuter, c'est le déconfinement le 11 mai.
Oui, merci Robin. Bon, moi je suis effectivement très inquiète parce que notamment si on prend les observations de l'ONS, donc je rappelle ce que c'est l'ONS, hein, c'est l'Observatoire National de la Sécurité et de l'Accessibilité des Établissements d'Enseignement. Je précise que cet observatoire, suite à une loi promulguée par Macron, va être supprimé cette année en même temps que les CHSCT, hein, donc c'est important de le dire. Donc l'ONS dit que les établissements ne sont pas prêts pour la reprise. Et quand il parle d'établissement pas prêt pour la reprise, il parle même pas de gel, de masque, pardon. Il parle justement seulement de gel de points d'eau. On peut aussi rappeler les chiffres des infirmières scolaires, des médecins scolaires. Hein. On a 900 médecins scolaires sur le territoire pour 13 millions d'élèves. Donc c'est quand même important de le préciser. C'est pour ça que nombreux sont ceux qui parlent des professeurs et des élèves comme des cobayes de l'immunité collective. Les déclarations de Blanquer, de Jean-Michel Blanquer, il n'y a pas longtemps, ont été déclarées comme hasardeuses par Matignon. On n'a pas de bilan sanitaire. C'est-à-dire, on ne sait pas combien d'élèves ont été infectés, combien d'enseignants et de personnels ont été infectés, ni même le taux de mortalité, parce que parlons-en, en fait, on a tendance à oublier qu'on est proche des 20 000 décès sur le territoire français. Donc, je ne veux pas avoir un discours outrageusement alarmiste, parce que je sais que souvent, quand on est porteur de ce genre de discours, c'est ce dont on nous accuse. Mais faut juste rappeler ça, en fait. Voilà, on ne sait pas, on navigue à vue. Et je crois que le gouvernement a montré depuis le début de cette crise son incapacité à gérer sanitairement les choses. Donc, alors moi, j'attends, comme tout le monde, les directives nationales et ministérielles qui vont nous permettre de rentrer dans de bonnes conditions, je l'espère. Mais sinon, effectivement, je partage mes inquiétudes.
Et de ton côté, Rosa, toi qui travailles justement avec des élèves très, très jeunes, puisque tu es à l'école au niveau primaire, en élémentaire, je crois.
Je trouve ça extrêmement angoissant, extrêmement irresponsable comme perspective. Je comprends pas, par exemple, je ne comprends pas que les restaurants restent fermés, que les étudiants soient appelés à, enfin, que les universités ne réouvrent pas. Donc, ça veut bien dire que les groupes d'adultes, c'est dangereux, qu'il ne faut pas qu'il y ait de groupes d'adultes. Donc, comment c'est possible qu'il y ait des groupes d'enfants? Et donc, en particulier, bien sûr, comme tu le disais, des groupes d'enfants. Et moi, je suis alertée, peut-être parce que mon enfant a cet âge-là aussi, par la situation de la maternelle. Et j'ai de nombreux témoignages de collègues qui sont en maternelle. C'est tout simplement, quand je parlais d'injonction impossible à réaliser, là, c'est vraiment le cas énormément. Et c'est extrêmement angoissant. Comment en maternelle, on peut penser que les enfants... Un, peuvent respecter une distance, un groupe d'enfants. Donc, il faudrait que tous les porte-manteaux, les tables, les crayons, les jeux soient désinfectés plusieurs fois par jour. C'est totalement... Enfin, je ne sais pas comment c'est faisable. Il y a aussi la question des sanitaires. On a dit qu'à un moment, il a été précisé que la... Enfin, bref, que les sanitaires étaient vecteurs de... Le passage aux sanitaires était vraiment vecteur de transmission possible, etc. Comment c'est possible, avec des enfants petits encore plus, mais d'imaginer une... Dans l'école de mon enfant, il y a, je crois, quatre sanitaires pour toute l'école, quatre toilettes. Donc, c'est une petite école, mais quand même. Donc, bref, il y a... C'est vraiment un cas d'école, pour le coup, l'école maternelle, je pense, où cette sécurité est totalement impossible à réunir. Et j'en veux juste aussi un témoignage de plus, c'est le cas des enfants de soignants qui ont été accueillis par des enseignants volontaires en maternelle. Eh bien, j'ai eu quelques témoignages de collègues qui ont été volontaires et qui ont dit comme c'était impossible alors qu'il y avait très peu d'enfants. Il y avait très peu d'enfants, parfois elles avaient trois enfants. Et bien, comment trois enfants, on peut faire... C'était déjà impossible ou extrêmement dur de leur faire respecter ces gestes barrières, de protéger, de régler la question des sanitaires, de protéger, enfin, ou de nettoyer tous les jeux qu'ils gardaient, enfin bref, voilà.
Donc oui, en effet, ça pose beaucoup de questions, la réouverture des écoles le 11 mai, la question du travail, justement, est-ce que ça implique pour les enseignants qu'ils vont devoir assurer et les cours en présentiel et les cours à distance, sachant qu'on vient de parler tout à l'heure de la charge de travail supplémentaire que ça a généré, les cours à distance. Donc il y a déjà une question de droit du travail hein, qui se pose pour les enseignants. La question sanitaire également, pour revenir sur ce que Rosa disait tout à l'heure, pour avoir discuté avec plusieurs collègues qui gardent aussi en ce moment les enfants de soignants. La question sanitaire, déjà pour eux, elle est très compliquée. En ayant justement des groupes très réduits de 10 élèves maximum. Maintenant, on nous parle d'avoir des groupes de 15. Donc, déjà, on se questionne justement par rapport à cette différence entre 10 et 15 élèves. Pourquoi pas avant, maintenant, oui. C'est toutes des questions légitimes qu'on peut se poser. La question de la taille des établissements, même si on a des classes juste de 15 élèves, dans des établissements de 1000 élèves, ça revient à avoir 300, 400 élèves ensemble, sachant que les rassemblements de plus de 100 personnes n'ont pas de sens, justement. Je pense aussi à la taille, justement, des cours de récréation. Dans mon collège, par exemple, elles sont très, très, très petites. Rien qu'avoir 150, 200 élèves concentrés là, ça semble inimaginable actuellement. Donc, en effet, il y a beaucoup de questions qui ne nous rassurent pas beaucoup, ni les enseignants, ni les familles, ni les élèves. Voilà.
Alors, du coup, là, vous avez évoqué un petit peu le cœur un peu de la contestation actuelle, c'est-à-dire est-ce que les conditions sanitaires seront remplies pour pouvoir reprendre. On peut aussi se poser la question de pourquoi, en fait. Pourquoi reprendre alors que d'autres pays, le Portugal, peut-être la Belgique aussi, l'Italie, l'État de New York, en fait, ont clairement affirmé que la reprise se ferait directement en septembre pour
la
tout
Finlande
le monde.
Aussi.
La Finlande aussi, merci. Donc voilà, donc reprendre pourquoi, quel est votre sentiment là-dessus?
Je crois que c'est clair, notre ministre l'a dit, c'est pour vraiment toujours dans ce même souci permanent de combattre les inégalités sociales. Donc ça, c'est un argument qui est vraiment très douloureux à entendre. Très douloureux à entendre. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que certains enseignants vont pouvoir y croire, c'est ça qui est triste.
Sylvia, tu voulais...
Si, bah si, justement, c'est vrai que ça fait très mal d'entendre cet argument des inégalités, parce que justement, depuis le début de l'enseignement à distance, c'est la première chose que tout le monde a pointé, la aggravation des inégalités scolaires, sociales, etc. Et que maintenant, on entende les membres du gouvernement crier contre ces inégalités, c'est vrai que ça fait assez mal, oui. Et après, je pense que de toute façon, la vraie raison, on la connaît tous, hein, pourquoi on réouvre les écoles, c'est parce que, il faut que les parents puissent aller travailler, il faut relancer l'activité économique. Et je pense que c'est ça un des points les plus importants justement sur cette question de réouverture des écoles. Après, même avec les conditions que Blanquer a légèrement annoncées, parce qu'on n'a pas encore des réelles mesures ou des réelles consignes, mais même avec cette question de 15 élèves, un jour sur deux, etc., ça pose quand même la question pour les parents qui ont encore des enfants qui vont à l'école, comment ils vont faire le jour où ils n'auront pas école, par exemple, ou la demi-journée. Donc, c'est même pas très clair par rapport à la question de relancer l'économie.
Du coup, sur ce plan-là, pour aller dans votre sens, je me permets de citer l'appel de la Coordination nationale de l'éducation. Comment croire qu'une telle mesure est décidée dans l'intérêt des élèves, notamment de celles et ceux des classes populaires, alors que les cartes scolaires qui continuent de tomber pendant le confinement entraînent des diminutions horaires et des centaines de fermetures de classes, notamment dans les écoles et établissements relevant justement de l'éducation prioritaire? Donc on voit ici, évidemment, ça met en lumière ce que vous avez dit. Voilà, est-ce que là-dessus, vous voulez rajouter quelque chose?
Je crois qu'il y a une piste qu'il faut peut-être explorer, c'est que le responsable, en tous les cas pour le secteur primaire, le responsable de la sécurité des enseignants, enfin des personnels, c'est l'inspecteur, l'IEN. Et donc, peut-être qu'on peut s'adresser, que chacun peut s'adresser à lui pour savoir si ou chaque école, ou je ne sais pas, peut s'adresser à lui pour savoir si effectivement les conditions de sécurité sont réunies. Et donc c'est cette personne-là qui est responsable qui doit être garante que les conditions de sécurité sont réunies. Je crois que vraiment ou en tout cas pour le premier degré, l'échelon, la personne responsable, c'est vraiment l'IEN qui est garante. C'est notre voilà, c'est notre Et par ailleurs, il y a aussi une initiative que je vois dans mon entourage, c'est les parents d'élèves qui aussi peuvent se signaler auprès par exemple, des parents d'élèves élus, auprès de la direction de leur école, pour savoir si ces conditions sont réunies et comment elles sont réunies, et aussi interroger les autres parents d'élèves sur ce qu'ils en pensent. Et par ailleurs, j'ai une amie qui fait une démarche, elle est ailleurs qu'ici. Qui fait une démarche par rapport à l'école de son enfant, elle va demander à la mairie de son village quelles sont les conditions par rapport au nettoyage en particulier, puisque le nettoyage des établissements du premier degré, des écoles, c'est la charge des mairies, hein. Donc, si cette mairie, elle a la capacité de nettoyer dans cette école maternelle plusieurs fois par jour, donc comme je le disais, absolument tous les équipements, hein, qui sont en contact avec les enfants, c'est-à-dire énormément d'objets et de choses, et par rapport à ces garanties qu'elle n'aura sûrement pas, elle compte, et je pense que c'est intéressant comme idée, remplir une feuille STT, c'est-à-dire sécurité et santé au travail. Ce sont des registres qui sont à disposition dans toutes les écoles et qui peuvent être remplis non seulement par les enseignants, mais aussi par les parents. Et je n'avais pas pensé à ça, mais les parents aussi peuvent remplir ce genre de fiches. Et ces fiches sont obligatoirement transmises à la hiérarchie. Il y a une obligation que ce soit. Voilà. Et ça, je pense que c'est une piste qu'on peut explorer.
Donc évidemment, les fameuses fiches STT ou tous les contacts, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Académie de Poitiers et du rectorat de Poitiers, que ce soit pour le primaire, le collège ou le lycée.
Oui, pour finir cette discussion, peut-être qu'on peut aborder une question finalement qui a un petit peu émergé dans tout ce que vous nous avez raconté. On a déjà dit effectivement que de la hiérarchie du ministère, ce qui venait souvent, c'était beaucoup des injonctions, des consignes fortes à faire un travail, mais sans vraiment en donner les détails, les contours, et que et il y a eu également aussi beaucoup de un temps assez important entre le début du confinement et finalement des directives assez précises de la hiérarchie, ce qui fait que un certain nombre d'établissements ou de collègues sont restés un peu dans le flou et ont dû finalement improviser assez rapidement et s'organiser entre eux. Donc là, c'est le quatrième point sur lequel on voulait éventuellement réfléchir avec vous, c'est sur cette finalement organisation du travail à la base. Est-ce que on n'a pas un bel exemple ici de finalement d'une organisation du travail qui a été prise en main dans un certain nombre d'établissements directement par les enseignants, sans attendre les directives des supérieurs qui étaient complètement aux fraises eux aussi. Et ça pose la question effectivement de est-ce qu'on ne voit pas ici que voilà, c'est finalement les personnes qui sont les plus près du travail qui sont les plus à même finalement d'organiser ce travail-là. Comment vous avez vécu les choses et qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là? Je ne sais pas si Rosa, tu veux commencer.
Moi, j'ai eu l'impression, en fait, encore une fois, j'ai une situation un peu particulière puisque ça fait de nombreuses semaines que je ne suis pas dans mon école, hein, donc je n'ai pas eu d'interaction puisque je suis malade, donc je n'ai pas eu d'interaction en direct, en fait, et en collectif avec mes collègues. Mais moi, ce dont j'ai eu l'impression, c'est que, en particulier avec l'exemple de la plupart de mes collègues qui se sont dévoués, on peut dire, je ne sais pas comment employer d'autres termes, mais qui se sont portés volontaires pour les enfants de soignants, y compris lorsqu'elles avaient elles-mêmes des enfants à garder toutes seules, etc. Eh bien, c'est que nous sommes un corps de métier, et ce n'est pas du tout le seul, mais nous sommes dans le care. Et nous sommes, pour ce qui est du premier degré, en énorme majorité des femmes, comme dans beaucoup de métiers du care. Et nous sommes, pour cette raison, sans doute aussi très, très, très dévoués à notre public. Et avec raison, mais c'est un peu notre fierté, notre honneur, c'est le cœur de notre métier, on pourrait dire. Mais en fait, je pense que ça nous aveugle souvent par rapport justement à l'acceptabilité des choses qu'on nous demande. Voilà, et je pense, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que les enseignants en général, et bon, encore une fois, moi, ce que je connais un peu plus, c'est les instituteurs, institutrices, on est souvent d'anciens bons élèves. En tout cas, on a eu un rapport plutôt positif à l'école, dans notre vie, et ça implique, j'ai l'impression que ça implique beaucoup de choses après dans notre pratique. On a énormément de mal, et je dis « on » pour m'inclure évidemment dedans, hein. On a énormément de mal à remettre en cause l'école, à remettre en cause aussi ce qui nous est demandé par la hiérarchie, et dans un cas comme ici, c'est extrêmement problématique.
Oui, effectivement, ce que tu veux peut-être dire, c'est qu'il y a effectivement une conscience professionnelle très, très profonde chez les enseignants et qu'il y a toujours ce souci d'être là pour les élèves et la moindre chose qui ne serait pas faite ou pas envisagée dans son travail, du coup, c'est vécu comme une sorte de culpabilité. Et le fait de ne pas finalement assurer son travail, de ne plus être là pour les élèves.
Tout à fait. Et je me demande si, par exemple, c'est pas encore amplifié par le fait que les enseignants, enfin, par le premier degré, sont des enfants plus jeunes, donc plus vulnérables. Et je pense, enfin, je mets ça un peu en parallèle, par exemple, avec ce que je connais, ce que j'ai comme témoignage de la part de collègues qui sont, enfin, de personnes qui sont aides à domicile ou qui travaillent dans les EHPAD, donc qui sont en relation avec des personnes handicapées, âgées. Il y a ce même, enfin, c'est pas la même chose, mais il y a cette dimension aussi de vouloir d'aller parfois au-delà, enfin de réfléchir avant tout aux personnes qu'on aide avant de réfléchir à soi-même, en fait. C'est peut-être encore plus fort, bien sûr, chez les aides à domicile, par exemple. Mais ça, c'est une dimension qui est un peu terrible parce que, voilà, elle se retourne parfois contre les personnes elles-mêmes. D'être aussi dévouée, je pense que c'est, effectivement, parfois, ça aveugle. Et en plus, là, dans la situation dont on parle, c'est-à-dire, par exemple, là, une réouverture des écoles, je me demande si ça ne peut pas aveuglé sur la sécurité, en fait, sous prétexte de vouloir aider les enfants, d'être là pour les enfants, sous prétexte d'être là pour les enfants, on risque de, à mon avis, bien sûr, de mettre en danger ces enfants. En plus de nous mettre nous-mêmes en danger, de mettre en danger les familles des... Donc là, sous prétexte de vouloir être là pour les enfants, on peut les mettre en danger. Voilà.
Oui, effectivement, il y a une contradiction là-dedans.
Oui.
L'institution, je pense qu'elle joue beaucoup aussi sur ce sentiment de culpabilité, de ce dévouement de tous les personnels enseignants et accompagnants, etc. Ils jouent beaucoup là-dessus, finalement, pour faire passer voilà, ce qu'ils ont envie de faire passer. Sylvia, oui, alors peut-être Rosa, si tu veux ajouter une
d'autant,
chose.
D'autant plus que dans la société, en général, il y a ce cliché qui est beaucoup véhiculé et qui est sûrement utilisé aussi des enseignants paresseux, des enseignants en vacances. Et donc ça joue pour les enseignants eux-mêmes beaucoup dans leur façon de voir leur métier quand même, de ne pas être ces enseignants paresseux, de ne pas être... Et donc ce cliché, il joue aussi contre nous dans le fait de vouloir lutter contre et voilà.
Oui, effectivement. Du coup, Sylvia, de ton côté, est-ce que dans ton établissement, ça a été, ça, comment finalement le travail s'est organisé dès le début du confinement? Est-ce qu'il y a eu une concertation avec les collègues enseignants assez rapide? Est-ce que vous avez eu des consignes précises de la hiérarchie? Comment ça s'est passé de ton côté?
Eh ben, moi, en fait, je travaille dans deux collèges différents, donc c'est assez intéressant de comparer justement le fonctionnement des deux établissements qui ne sont pas pareils. Dans un, on a eu des consignes de la direction assez claires sur la charge de travail à donner, les évaluations ou non, les notations ou non, etc. Dans l'autre, on n'a pas vraiment eu des conseils, on a eu les informations, voilà, qui venaient du ministère, etc., mais sans pas vraiment nous guider sur comment y procéder. Donc du coup, il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges entre les collègues, beaucoup de collègues qui ont réalisé des tutoriels, qui ont mis à disposition des ressources, des plein de choses. Donc ça a créé quand même un certain esprit de solidarité entre nous. On s'est très vite posé la question de la charge du travail, de la communication avec les familles, etc. Donc ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est qu'au final, ça a créé quelque chose qu'on reproche souvent aux enseignants, c'est de pas travailler ensemble, de faire un peu chacun dans son coin, etc. Alors que je trouve que justement en ce moment, on a pu apercevoir que ce n'était pas si simple que ça et qu'il y avait quand même beaucoup de travail collectif, etc. entre les enseignants, et ça a créé des nouveaux liens. Après, un autre point que je trouve aussi intéressant, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est le côté où on n'a pas vraiment eu des consignes et tout ça s'est organisé très vite, donc de manière autonome. Et voilà, les enseignants entre les enseignants, c'est un peu la base qui a dépassé la hiérarchie assez rapidement. Aussi avec le contact avec les familles, ça a créé des nouveaux liens, etc. Donc je trouve que c'est assez intéressant au final comme apport nouveau ce que cette situation nous donne et que c'est vraiment l'opportunité de nous réapproprier un peu notre travail, de recréer une école qui part vraiment de la base des familles et des enseignants. Et voilà, on a montré qu'on était quand même un peu capable de faire entre nous.
Du coup, on voit bien que voilà, la base est toujours beaucoup plus efficace que la tête, surtout dans ces périodes de crise. Et c'est d'autant plus vrai par rapport à ce que disait Rosa sur cette espèce d'ambivalence entre le côté positif du dévouement et du rapport aux autres dans le travail, et puis évidemment les conséquences que ça peut avoir sur les personnes qui en feraient trop ou qui justement essaieraient de répondre à toutes les injonctions donc du ministère. Et le fait que les hiérarchies, on va dire locales, aient pris beaucoup de temps à intervenir, eh bien, ça a laissé de la place, du coup, aux enseignants et aux enseignantes eux-mêmes pour travailler et puis pour se mettre en relation. Alors, bah écoutez, merci d'avoir répondu à ces différentes questions. Merci pour vos analyses super intéressantes. Eh bien, on vous invite à lire évidemment toutes les publications des sites des syndicats comme Sud Éducation, la Fédération Éducation-Recherche de la CNT Solidarité Ouvrière, la CGT Éducation, la CNT-FTE, Fédération des travailleurs d'éducation, qui produisent quasiment tous les jours des documents sur l'école et sur la fameuse reprise le 11. On vous invite aussi à lire les revues La Mauvaise Herbe et puis Notre École, qui produisent tous les mois des outils de réflexion sur la pédagogie et le rapport à la hiérarchie. Eh bien, merci à vous toutes, et puis bonne journée, à très vite.
Merci.
Merci.